Bonjour et bienvenue à notre podcast dédié au renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur de la TDA du pôle 7. Aujourd'hui, il sera question de la production des œufs féconds et des techniques d'incubation pour la production des poussins. De façon spécifique, nous aborderons des sujets tels que la sélection des poulets locaux pour obtenir des œufs féconds de haute qualité, les conditions optimales pour la ponte et la collecte des œufs féconds, les techniques modernes d'incubation incluant les paramètres de température, d'humidité et de ventilation, sans oublier les défis courants rencontrés par l'incubation pendant l'incubation au temps pour moi et comment les surmonter. Nous ferons le voyage avec Modeste Dayato. Il est expert formateur et actuel président de l'Association nationale des agriculteurs du Bénin, ANAB. Monsieur Dayato, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Sans plus tarder, nous allons démarrer très rapidement. Je vais vous demander de nous expliquer brièvement les facteurs essentiels pour la production de féconds chez les poulets locaux.
Ok, merci. Je vais résumer ces facteurs-là en trois facteurs essentiels. Déjà, la sélection des reproducteurs qui vont servir à la production d'œufs. Les conditions d'élevage, donc je mets tout ce qui est conditions d'élevage. Il faut une meilleure condition d'élevage et après, il faut la gestion des œufs. Donc voilà les trois paramètres à maîtriser pour une bonne production de fêter.
Si la TDA 7 a voulu faire participer les éleveurs à cette formation, ou du moins sur cette causerie, c'est parce qu'ils rencontrent certaines difficultés, n'est-ce pas? Pour cela, parlez-nous un peu des principaux défis rencontrés par ces éleveurs dans la production de féconds.
Ok, merci beaucoup. Et effectivement, c'est le lieu de remercier la TDA 7 pour les efforts qu'elle ne cesse de consentir pour accompagner nos membres qui sont les éleveurs et notamment les agriculteurs traditionnels. Alors, les défis auxquels les éleveurs sont confrontés par rapport à la production d'œufs fertiles sont de plusieurs ordres. Il y a le déficit de formation et c'est justement ce qui explique ce renforcement de capacité. Donc, ils n'ont pas tous les éléments qu'il leur faut en termes de connaissances pour pouvoir améliorer les techniques de production d'œufs fertiles.
D'accord. Et quelles sont les meilleures pratiques pour assurer une alimentation adéquate des poules pondeuses?
Merci beaucoup. Alors, en termes d'alimentation, il faut dire qu'il faut, de façon générale, une alimentation qui répond aux besoins de l'animal. Mais elle a besoin également d'aliments, d'autres éléments dans l'aliment, pour la production d'œufs. Et donc, ceci étant, il faut alors un aliment qui respecte ces différents besoins, donc riche en protéines, riche en phosphates, et ça, tout ça permet, en minéraux aussi, en oligo-éléments, et tout ça mis ensemble permet à la poule d'avoir tout ce dont elle a besoin pour pouvoir nous produire des œufs de qualité.
Ok, nous allons aussi parler des conditions dans lesquelles les élevages sont faits. Je fais allusion à la température, à l'espace, etc. Vous allez nous dire comment ces conditions influencent-elles la production de féconds?
Ces conditions influencent beaucoup la production d'œufs. Déjà, l'habitat. L'habitat de la poule qui veut pondre, ou bien des reproducteurs, doit être aéré. La poule a besoin d'une certaine heure de luminosité. Et parfois, la luminosité de la journée ne suffit pas. Et donc, la nuit, on est obligé d'apporter la lumière artificielle. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il faille que le bâtiment soit bien orienté pour se laisser pénétrer la luminosité, une bonne quantité, intensité de lumière déjà dans la journée. Et si au besoin, ajouter la lumière la nuit.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que durant la formation, vous avez insisté sur le bien-être des sujets. Je voudrais donc demander déjà les signes à surveiller, bien sûr, pour déterminer si une poule est en bonne santé et capable de produire des œufs féconds.
Merci. Déjà, il y a ce que nous appelons l'œil de l'éleveur. L'éleveur qui a l'habitude de donner à manger à ses animaux doit pouvoir rapidement identifier s'il y a un changement de comportement au niveau des animaux. Donc, quand l'éleveur donne à manger le matin aux animaux, il ne le fait pas de façon mécanique. Après le service, l'éleveur doit pouvoir rester dans l'élevage pendant quelques minutes pour observer ses animaux. Est-ce que tous les animaux ont l'habitude, si tous les animaux ont l'habitude de courir vers l'aliment pour manger, il va falloir observer pour voir est-ce qu'il y a d'autres poules ou bien un coq qui n'est pas allé vers l'aliment, qui n'est pas allé vers l'eau. C'est déjà des signes visuels qui vous permettent de savoir si tel ou tel animal est malade ou pas. Il y a aussi les fientes, la couleur des fientes qui nous permettent déjà d'identifier ou du moins avoir des suspicions sur les cas probables de maladie. Il y a que, on peut citer également, l'appétit des animaux. Voilà. Si vous avez l'habitude de donner une certaine quantité, vous constatez le soir ou le lendemain qu'ils n'ont pas mangé la quantité d'aliments qu'ils avaient l'habitude de manger, ça veut dire qu'il y a un problème d'anorexie, d'appétit, et ça veut dire qu'il y a des signes avant-coureurs de maladie qui s'incubent déjà au niveau de ces animaux-là.
Ok. Et quel type de maladie ou parasite peuvent affecter, par exemple, la production de féconds et surtout, comment peut-on les prévenir?
Merci. Nous, au niveau de l'élevage, on travaille beaucoup plus à prévenir. À prévenir que guérir. Parce que quand la maladie arrive, c'est souvent difficile. Et vous voyez, c'est des animaux qui sont souvent en bande. Et donc, c'est beaucoup plus la prévention et nous avons insisté, nous avons pris tout le temps pour insister sur la biosécurité qui n'est rien d'autre que la prévention. Vous voyez. L'éleveur aujourd'hui qui veut vivre de son activité doit pouvoir forcément se professionnaliser. Se professionnaliser, c'est mettre en place tout le dispositif, même traditionnel, des éléments de la biosécurité. Et ça fait partie quand même des points, des grands points d'attention de ces quelques jours de formation pour éviter que toute maladie puisse venir. Alors, quelles sont les maladies qui, dans notre pays, dérangent un peu les reproducteurs? C'est pratiquement les mêmes maladies qui attaquent les poules, donc les poulets. Nous pouvons noter qu'il y a la maladie de Newcastle, d'accord, qui est une maladie virale. Et il faut que tout élevage sérieux se préviennent de cette maladie-là. Donc, il faut faire la prévention, il faut faire le vaccin. Il y a les maladies parasitaires, il faut la coccidiose, qui dérange aussi les reproducteurs. Donc, il faut, par moment, avoir un plan de prophylaxie qui anticipe sur ces maladies. Il y a aussi des maladies bactérielles qui dérangent les sujets, mais on peut les prévenir.
Je vois. On va parler un peu de la fécondation. Ce qui m'amène à vous demander comment les éleveurs peuvent-ils optimiser le taux de fécondation des œufs dans leurs exploitations.
Merci. La fertilité, donc le taux de fécondité, c'est un aspect prépondérant dans l'élevage. C'est ça qui permet à l'éleveur de rentabiliser sa production pour avoir des œufs fertiles. il y a toutes les conditions que nous verrons. Il faut que le bien-être animal soit respecté. Si l'animal se sent à l'aise déjà dans l'espace qu'on lui a réservé, qu'il ait suffisamment d'espace pour se déplacer, qu'il ait les conditions de température, d'humidité qu'il lui faut, qu'il ait la luminosité qu'il lui faut, qu'il ait l'hygiène d'élevage et pour finir, une bonne alimentation qui répond à ses besoins. Vous convenez avec moi que ces poules, et bien sûr, je m'en voudrais de ne pas rappeler ce que nous appelons le sexe ratio. C'est combien de mâles pour combien de femelles. D'accord? Il faut... La théorie nous demande un mâle pour 5 à 10 femelles. Ça, c'est la théorie. Mais la pratique qui a fait l'objet de nos échanges recommande plutôt 3 à 5, maximum 5. Mais on constate qu'avec même 3 femelles, un mâle, 3 femelles, on a plus de fertilité, donc plus de fécondité des œufs.
D'accord. Et quelles sont les techniques de collecte et de stockage des œufs féconds pour maximiser leur viabilité?
Merci. Vous avez bien dit pour maximiser leur viabilité. Alors, effectivement, une chose est de produire déjà les œufs de bonne qualité, mais l'autre est de pouvoir les stocker, les ramasser et les stocker dans les conditions idoines. Alors, pour le ramassage, c'est déjà faire beaucoup attention, ne pas avoir des mains sales, parce que les œufs ont des pores. Et déjà, il faut faire en sorte que les œufs ne se cassent pas, ne se fissurent, parce que vous savez, ce sont des coquilles. Donc, au cours du ramassage, il faut les ramasser avec délicatesse pour que, qu'on n'assiste pas à des fissures d'œufs. Aussi, le milieu de stockage doit pouvoir avoir une certaine humidité pour favoriser la conservation de la fertilité de l'œuf, sans quoi la chaleur pourrait détruire ou accélérer n'est-ce pas la fécondation ou le processus déjà de fécondation de l'œuf. Donc nous on insiste pour que les gens conservent les œufs dans un milieu frais et ne les gâtent pas au-delà de 5 jours.
À présent, nous allons parler des techniques d'incubation pour la production des poussins. Et je vais vous demander très rapidement de me décrire les étapes clés du processus d'incubation des œufs.
Ok. Alors, il y a que nous avons rappelé. Nous avons rappelé néanmoins, c'est vrai que nous sommes en train de parler de l'incubation artificielle, mais nous avons rappelé quand même quelques notions sur l'incubation naturelle qui... Certains éleveurs, parfois au-delà des incubateurs qu'ils ont, ont une production d'œufs qui dépasse les quantités, d'accord, des incubateurs et qu'il faille incuber ces œufs-là quand la machine est remplie. Donc, on a rappelé les différentes thématiques liées à la couvaison naturelle et avant de revenir sur l'incubation artificielle. Alors, l'incubation artificielle, nous avons sur le terrain de différentes sortes de couveuses, donc on a rappelé les différentes sortes d'incubateurs, ceux qui sont à pétrole, à gaz, les couveuses électriques aussi. Mais on a retenu qu'il existe notamment trois types de couveuses. Les couveuses manuelles, ceux qui sont seulement manuelles, donc qui fonctionnent uniquement avec l'attention de l'homme. Il y a les semi-automatiques, donc qui ne sont pas tout à fait automatiques, mais qui nécessitent aussi l'intervention de l'homme. Et enfin, ceux qui sont automatiques. Alors, ces différentes couveuses-là, artificielles, manuelles, automatiques, semi, nécessitent de façon générale un contrôle précis de la température et de l'humidité. C'est le principe de base pour tout incubateur.
D'accord. Et à part les incubateurs, les couveuses et autres, quels sont les autres équipements nécessaires pour une incubation réussie des œufs de poulet?
Oui, à part la couveuse, il y a un autre équipement qui nous permet. Il y a deux équipements en réalité au niveau des couveuses. Il y a l'incubateur qui garde les œufs, d'accord, pendant une période donnée. Et il y a un autre matériel qui, en principe, recueille ces œufs-là et où on les met pour l'éclosion. Donc, on appelle un éclosoir. Mais de nos jours, les incubateurs que nous avons, les petits incubateurs que nous avons, ont ces deux fonctions. Ce qui diminue un peu la qualité, d'accord, de l'incubation, parce que ces deux étapes dans l'incubation nécessitent des conditions de température différentes. Mais comme souvent on le dit chez nous, on n'a pas suffisamment de moyens pour prendre un éclosoir à part et l'incubateur à part, on a des dispositifs d'incubateurs qui ont les deux, mais cela joue un peu sur le résultat que nous avons à la fin en termes de nombre de poussins sortis de l'œuf.
Ok, et comment les éleveurs peuvent-ils s'assurer que les conditions d'incubation, si je parle de conditions d'incubation, je veux revenir sur la température, l'humidité, etc. Comment ces conditions d'incubation-là sont-elles optimales?
Oui, de façon générale, il faut mettre l'incubateur dans un milieu aéré. Dans un milieu aéré, pas très proche d'un mur qui dégage beaucoup de chaleur, parce que la température ambiante influe beaucoup sur la température qui règne au sein de l'incubateur. Donc nous recommandons beaucoup qu'on mette ces incubateurs-là dans un milieu aéré, ce qui permet un bon fonctionnement de l'incubateur. La température de l'incubateur, la température moyenne qui est recommandée, c'est 35,5 à 35,7 qui est retenue. Et donc, l'éleveur doit pouvoir surveiller cette température-là. Si ça monte, il y a alors des comportements qu'il doit avoir. Si ça diminue, il y a également un certain nombre de choses qu'il doit vérifier pour voir si est-ce que le chauffage continue normalement et quels sont les réflexes qu'il doit avoir en cas de baisse de température ou de hausse de température. On a pu leur donner tous ces éléments-là.
Voilà, baisse de température, hausse de température, etc., etc. Il est normal que, même si on suit tout de près, il y a toujours ces problèmes qui surviennent. Quels sont donc les principaux problèmes qui peuvent survenir pendant l'incubation et comment les résoudre ces problèmes?
Déjà, les différents problèmes, c'est déjà lié à la température. Comment maintenir la température constante pendant toute la durée d'incubation? Ça, c'est le vrai challenge auquel l'éleveur est confronté avec nos petits incubateurs. Donc, c'est déjà suivre. C'est vrai, la machine, on peut dire qu'elle est automatique, mais le suivi de l'homme est toujours recommandé. Donc, il faut suivre la température et après la rotation des œufs. la rotation des œufs, le retournement plutôt. Il faut suivre le retournement. Et ça, quand l'incubateur, ça dépend des types d'incubateurs que vous avez. S'il n'y a pas de retournement, vous devez pouvoir le savoir selon le type d'incubateur que vous avez. La source de chaleur, parce que si la température diminue, c'est peut-être la source de chaleur qui a le problème. Donc, l'éleveur doit pouvoir vérifier régulièrement si sa source de chaleur est toujours opérationnelle. Il y a qu'il doit savoir comment est-ce qu'on positionne les œufs. On ne dépose pas n'importe comment les œufs dans l'incubateur. Donc, il y a ça aussi qui doit pouvoir surveiller. Naturellement, l'hygrométrie. Mais, de façon générale, c'est disposer d'un cahier de suivi. Donc, le jour qu'on a mis l'incubateur, on a mis les œufs dans l'incubation, on doit pouvoir noter et suivre ces différentes étapes de fonctionnement de l'incubateur, retenir le jour où on doit ramener les œufs de l'incubateur vers l'éclosoir et pour ne pas laisser les œufs dans l'incubateur jusqu'à ce que l'éclosion ne commence. Ça, ce n'est pas bon. Ça pourrait agir sur le résultat à la fin.
Également du côté des œufs, ce n'est pas tout qui est viable. Comment les éleveurs peuvent-ils déterminer si un œuf est viable pour l'incubation avant de le placer dans l'incubateur?
Merci. Alors, il y a ce que nous appelons le mirage. C'est une opération que l'éleveur doit faire. Déjà, à 7 jours d'incubation, l'éleveur doit pouvoir faire le mirage. C'est cette opération qui lui permet de savoir si tous les œufs qu'il a mis dans l'incubateur sont fécondés ou pas, sont fertiles ou pas. Sinon, le premier jour où il met ses œufs, il n'a aucune idée, il n'a pas d'élément, d'accord, pour savoir si l'œuf est fertile ou pas. Et la seule chose que nous recommandons, c'est qu'avant de mettre, d'incuber les œufs, il y a quand même quelques recommandations qu'il faut respecter. Des œufs mal formés, par exemple, ne sont pas incubés. Des œufs trop petits ne sont pas incubés. Des œufs trop gros non plus ne sont pas incubés. Donc, il y a des œufs sales aussi ne sont pas incubés. Parce que quand c'est sale, depuis le lieu de ramassage, donc il y a de fortes possibilités que le gène qui est à l'intérieur soit déjà contaminé par une maladie parce que la coquille a des pores que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais il y a une relation entre l'extérieur et l'intérieur de l'œuf. Donc, il faille au 7e jour faire l'opération de mirage qui vous permet de regarder si l'œuf est fertile ou pas. Et nous avons dit que quand c'est fertile, il y a des... On observe quelques fibres rouges qui montrent que la fécondation a commencé, que le processus a démarré. Donc, les œufs qui sont clairs et qui n'ont pas ces fibres-là, rouges, ne sont pas des œufs propices. Donc, l'éleveur doit pouvoir les enlever de l'incubateur. Et c'est à ce seul instant qu'il sait que parmi les œufs qu'il a mis dans l'incubateur, voilà, il a un taux de fécondité qui est tel.
D'accord. Et nous avons des indicateurs à surveiller pendant l'incubation pour assurer un bon développement des embryons, n'est-ce pas?
Les indicateurs, j'allais dire, à respecter, c'est déjà celles qu'on vient d'énumérer. C'est des incubateurs liés à la température, surtout à la température, et au retournement des œufs. Est-ce que le système, si c'est automatique, est-ce que les œufs sont vraiment retournés? Il faut vérifier. Si c'est manuel, il faut que l'éleveur n'oublie pas de retourner les œufs. Parce que si toutes les autres conditions sont réunies et que vous ne retournez pas les œufs, les embryons risque de se coller aux membranes, à la membrane des œufs. Et là, si ça se colle, le développement ne sera pas étiré. Et après, l'embryon ou bien le poussin ne pourra pas sortir de la coquille. Donc, c'est très important le retournement.
Chers amis auditeurs, à l'issue de cette séance de renforcement des capacités, les auditeurs avaient donné leurs différentes impressions, ce que je vous propose de suivre avec moi.
Avec la formation d'hier et qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande innovation pour nous les éleveurs qui sommes ici présents. Et ça a changé beaucoup de choses. Les notions données, le thème choisi est un bon thème pour pouvoir améliorer nos produits, c'est-à-dire nos manières de faire l'activité. Quand nous prenons par exemple les locales, comment il faut construire les locales, les dortoirs de ces sujets, on a abordé tous ces sujets-là qui ont éclairé la pensée de tout chacun. De prendre son petit
déjeuner. Nous sommes donc à la fin de cet entretien. Est-ce que Monsieur Dayato, vous avez d'autres recommandations à faire aux éleveurs sous forme de mots de fin?
Merci. Mots de fin, je dirais encore une fois merci à l'État béninois pour tout ce qui se fait à travers les agences de développement territorial, donc les ATDA. Remercier le chef de l'État pour cette décision forte que son gouvernement a prise pour bientôt interdire l'importation des poulets au Bénin. C'est ça qui justifie ces différents renforcements de capacités que nous sommes en train d'apporter à nos éleveurs pour qu'ils soient au rendez-vous. Parce que c'est un rendez-vous qu'il faille ne pas manquer. Et nous, éleveurs, nous nous inscrivons vraiment dans cette dynamique pour accompagner le gouvernement à réussir ce virage qui, ma foi, pourra générer beaucoup d'emplois pour le Bénin et développer massivement la production de poulet.
Chers amis auditeurs, nous voici à la fin de ce voyage très enrichissant dans l'univers de la production des œufs féconds et des techniques d'incubation pour la production des poussins. Nous espérons vous avoir fourni d'essentielles informations sur ce domaine. Nous rappelons que c'est un programme offert par la TEDIA du Pôle 7 et que vous allez suivre sur 5 radios partenaires tels que Radio Lokosa, Radio Tokwa, La Voix de la Vallée, Radio GEDES et Radio Sedon. À très bientôt.